Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.
Bienvenue dans l'émission Un pour tous, tous pour un, avec Anne-Marie Born.
Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Une église locale qui appartient à la Fédération protestante de France va décliner son travail, son engagement, son témoignage. Et vous êtes le berger, en quelque sorte, d'une communauté. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter pour nos auditeurs ?
Avec plaisir. Alors effectivement, moi je suis marié à Marie-Hélène, j'ai 55 ans aujourd'hui, et puis nous avons 3 enfants, et donc ça fait une vingtaine d'années que je suis ce que nous on appelle le pasteur principal de la paroisse sur l'Athe, au sud de Montpellier. Et puis effectivement, donc le clin d'œil, c'est qu'on est une équipe pastorale dans une même paroisse, c'est-à-dire que c'est pas un seul pasteur, mais c'est plusieurs, donc c'est une de nos caractéristiques. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'avoir plusieurs facettes à l'expression de mon ministère qu'on aura l'occasion de partager ensemble.
Eh bien alors, bon anniversaire déjà, Rodrigue.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous pourriez déjà nous présenter la communauté de l'Église dont vous êtes avec d'autres collègues, pasteurs, les bergers, les garants, les conducteurs, etc.
Exactement. Alors, en fait, nous faisons partie d'une famille qui s'appelle, famille d'Église, qui s'appelle Réseau Nouvelle Connexion. L'Église a une trentaine d'années, elle a été implantée par une équipe envoyée du Sud-Ouest, hein, parce que notre famille d'Église, qui fait partie de la Fédération protestante, est née là-bas il y a bientôt 45 ans. Et puis, on a vécu l'aventure avec mon épouse de cette implantation à Montpellier. Alors, du coup, il y a un ADN qui est vraiment propre à la famille d'Église, parce que c'est issu de là-bas. Et en même temps, les valeurs ont pris la couleur du territoire dans lequel nous sommes. Ce qui fait qu'on l'a appelé Centre Languedoc Évangile. Centre Languedoc Évangile, parce qu'effectivement, dans la ville, on trouvait plein de centres Languedoc quelque chose. Et puis, on trouvait que pour l'intégration dans le tissu social, s'appeler Centre Languedoc Évangile, c'est une expression, en étant pleinement engagé dans le territoire, mais de dire que l'Évangile a sa place aussi dans le territoire. Alors, pour dire un mot sur notre paroisse, c'est vrai que nous sommes plusieurs pasteurs à plein temps, mais aussi à mi-temps, pour avoir la diversité des ministères. C'est à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient, dans ce sens où on pourrait se dire, mais pourquoi ne pas les libérer pour aller implanter ou diriger d'autres églises ? Sauf que la complémentarité des ministères importe chez nous. Il y a un enseignant, vraiment un docteur, quelqu'un qui vraiment a un enracinement théologique profond. Et puis, il y a un évangéliste, puis il y a un pasteur. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse se consacrer à sa spécificité, venir enrichir l'Église. Donc, c'est sûr que quand un enseignant intervient dans le cadre d'un culte, il apportera quelque chose de différent qu'un pasteur, et ainsi de suite. Et du coup, on a le privilège d'avoir une sorte de diversité de ministères au sein de notre paroisse.
Merci beaucoup pour cette introduction qui nous permet de vraiment visualiser dans quel contexte vous intervenez. J'aime beaucoup et je reviendrai sur le mot de famille de l'Église. Je trouve que c'est important dans une période où parfois la famille est mise à mal. Comment pour vous, cette famille de Dieu, cette famille qui réunit quelque part les créatures voulues par Dieu, trouve sa place et son sens dans notre société d'aujourd'hui ?
C'est une très bonne question. Ça fait partie de notre vision en tant que paroisse de pouvoir s'adresser aux familles dans l'objectif de voir Dieu restaurer la famille. La famille est une institution de Dieu. Ça passe par le couple, mais c'est sûr que des couples sains forment des familles saines. Et donc, travailler à avoir une vision de l'Église comme le rassemblement de familles qui elles-mêmes doivent avoir une réalité de l'Église. En fait, la famille est l'Église miniature. Si chaque Église miniature accueille la présence de Jésus à une vraie communion en tant que couple, et c'est un vrai défi, hein, que les couples prient ensemble, Et puis surtout, au-delà de la prière, c'est une vraie communion et faire de Jésus et de l'Église le modèle du couple. Ce que Éphésiens 5 nous dit bien, que c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme et c'est comme ça que la femme doit aimer son mari. C'est un modèle pour nous. Quand c'est le cas et que par la suite, les enfants sont éduqués dans ce terreau, dans ce climat, dans cette culture, ça produit des familles saines. Et travailler à la restauration, quand ce n'est pas le cas, eh bien, c'est une mission en soi de l'Église. C'est-à-dire qu'on pense l'Église, lorsqu'elle se réunit, comme une famille, et du coup, quid de la qualité de l'accueil, d'une part, des enfants, mais des couples, des familles. Parce qu'on pourrait se rassembler et oublier cette dimension, et pas avoir une vision spécifique, mettre les ressources spécifiques à avoir des familles en bonne santé.
Et ça, je crois que c'est très important parce qu'effectivement, les familles, la famille est mise à mal dans notre société. Et il est important de pouvoir réfléchir, partager, mettre en commun peut-être parfois des difficultés pour se rendre compte qu'elles sont possibles déjà à déposer. Et déposer, c'est éviter qu'on porte tout parce que l'autre va aider à porter. Et du coup, je crois que là, vous avez des choses qui sont importantes à nous dire.
Absolument. Alors, en fait, ça se traduit comment ? C'est proposer de l'accompagnement à la parentalité. Dans notre paroisse, il y a, alors on connaît tous les cours Alpha. Donc Alpha propose l'éveil à la foi par le parcours Alpha qui est connu, mais il y a des déclinaisons, des outils dont on se sert aujourd'hui pour proposer à des parents en difficulté, parce qu'aujourd'hui, si la famille est mise à mal, des parents ne savent pas comment répondre aux besoins de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés. Mais en souffrance, en grande souffrance. Et donc, on crée un espace où les parents peuvent solliciter de l'aide. Et il y a des outils aujourd'hui proposés par des couples à l'intérieur de notre paroisse qui proposent de l'accompagnement. On peut se rendre facilement compte quand on fait une école du dimanche, comme on appelle habituellement, que certains enfants sont en souffrance. Et on peut s'approcher des parents et leur proposer de l'accompagnement. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est l'accompagnement à la conjugalité ou à la vie de couple. Et ce n'est pas non plus simple aujourd'hui. Et donc, quand on traverse une période difficile, pour X raisons que ce soit, avoir un espace dans l'Église où il y a des personnes formées pour pouvoir dire une parole, mais aussi être présent, prier. Et quand on touche nos limites, aussi renvoyer vers des spécialistes, un peu comme un généraliste qui, à un moment donné, dira « Mais là, je touche mes limites, donc il faut un spécialiste, un sexologue ou que sais-je, qui fera un bout de chemin, mais que l'Église se donne les moyens de pouvoir répondre à des besoins, mais prégnants, concrets. Et ça me paraît vraiment important que toutes ces dimensions soit là, et puis aussi qu'il y ait un pastorat général, ce qui s'adresse aux adultes, mais qui s'adresse aussi aux enfants. Et les enfants qui ont besoin d'être accompagnés spécifiquement, et que l'école du dimanche ou les parents eux-mêmes touchent leurs limites. Donc toujours en relation avec les spécialistes, le monde médical, les spécialistes de la santé, mais aussi en interne, on peut être en capacité de donner des réponses à des familles en souffrance.
Il y a un deuxième mot sur lequel j'aimerais rebondir, Rodrigue. Vous avez appelé votre communauté d'église le Centre Languedoc Évangile. C'est vrai que le mot de l'évangile peut paraître un gros mot pour ceux qui ne baignent pas dedans. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce que ce mot recouvre pour vous ?
Oh, merci. Alors, je pense à un verset que Paul utilise quand il explique son ministère ou qu'il le résume. Il dit « J'ai abondamment répandu l'évangile en trois dimensions. L'évangile par la parole, par les actes et par la puissance de l'esprit. » Et je trouve que c'est un bon résumé de l'incarnation de l'évangile. L'évangile doit se dire. L'évangile est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle doit trouver une parole claire. L'enjeu, je pense, pour notre temps et la culture dans laquelle nous sommes, c'est que ce soit une parole qui rejoigne les gens, qui ait du sens pour eux. J'aime beaucoup de Jésus, on dit que quand il enseignait comme ayant autorité. C'est-à-dire que les gens l'écoutaient et puis ça les rejoignait. Il n'était pas un discoureur qui rappelait des concepts ou des principes, une sorte de philosophie simplement, une philosophie creuse, mais c'était vivant. Ça rejoignait les gens. Ils étaient touchés, ils étaient rencontrés. Bon, une parole pertinente. Ça, c'est très important et ça se travaille. Paul est un bon exemple d'adaptation de sa parole dans le contexte dans lequel il était. Il disait pas la même chose à Éphèse ou à Corinthe parce qu'il s'adaptait au public qu'il avait en face. Donc, la pertinence de la parole, la bonne nouvelle en parole est essentielle. Mais la deuxième chose, pour moi, de l'évangile, c'est les actes. Et Paul prend bien soin de dire, il ne s'agit pas que de parler, il s'agit d'incarner l'évangile par des actes, une sorte de démonstration dans la vie quotidienne, une démonstration par la prise de soin des uns et des autres, de manière désintéressée, de manière l'amour de Christ, quand Jésus veut donner une parabole. De l'amour du prochain, il donne le bon samaritain qui est l'incarnation de la bonne nouvelle de l'évangile en acte. Et ça a du sens en soi, sans pour autant toujours vouloir parler ou le faire pour avoir l'occasion de parler, mais c'est un complément de l'évangile. Et la puissance, c'est très important. Si on parle de spiritualité aujourd'hui, nos concitoyens ont peut-être pas un appétit pour les choses religieuses, mais ils ont un appétit pour la spiritualité. Et ils cherchent de la spiritualité de partout. Et là, Paul, il dit, j'ai démontré l'évangile par la parole, par les actes, mais aussi par la puissance. Ça veut dire, dans ce contexte, il est en train de dire, des gens sont touchés lorsqu'ils prient pour eux, ils peuvent être guéris, peuvent être libérés, et on a besoin que l'évangile soit une bonne nouvelle aussi pour des gens qui souffrent des fois des problématiques profondes, où on va voir l'Esprit de Dieu en capacité de les rejoindre. Donc ces trois dimensions nous intéressent particulièrement pour rencontrer les besoins de ceux qui nous entourent.
Merci beaucoup. Et avant la pause musicale, une petite précision. Comment, de votre place de pasteur, avec vos collègues, vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de dérive? Parce que nous avons entendu parler de gourous, nous avons entendu parler de gens qui se prennent pour Dieu sur la terre et qui veulent plutôt amener les gens vers eux, alors que votre explicitation montre bien que c'est au nom de Jésus-Christ. Absolument. Que vous êtes envoyé.
Absolument. Alors, plusieurs choses. Je citais Paul, qui lui-même était missionnaire envoyé, mais il a été envoyé d'une église dont il était redevable. Et dans l'expression de son ministère, il avait des personnes à qui il rendait des comptes. La première des choses, on est une famille, et dans la famille, il y a des pères, il y a des mères à qui on est redevable. C'est-à-dire quelqu'un qui se lèverait et dirait qu'il a la vérité absolue et qu'en dehors de lui, eh bien, il n'y a pas de salut. Eh bien, on est en danger parce qu'un évangile qui ne se vit pas en famille, qui dit famille, dit redevabilité. Et si Jésus lui-même, qui a vécu son ministère en étant soumis à son Père, eh bien, si nous, on exerce notre ministère sans soumission, redevabilité, alors quand je dis soumission, c'est de ne pas vivre seul et d'accepter qu'il y ait de la lumière sur ce qu'on fait, un regard. Donc, ce qui fait que nous avons des vis-à-vis qui viennent regarder ce que nous faisons, nous rendons des comptes de notre pratique, de notre théologie, de la manière dont on incarne l'évangile. Donc ça, c'est un garde-fou. Et puis l'autre chose, c'est de travailler en équipe. Ça veut dire que non seulement en dehors de notre paroisse, il y a des gens qui nous regardent, qui nous sont redevables, mais à l'intérieur, puisqu'on est plusieurs, d'autres peuvent venir nous reprendre ou regarder de près ce que nous faisons parce que nous travaillons en équipe. Il n'y a pas une personne seule qui est dépositaire de la vérité.
Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez introduire la pause musicale, Rodrigue? Qu'avez-vous choisi de nous faire écouter?
J'ai choisi une composition de Matt Redman qui s'appelle The Father's Song. C'est basé sur un verset de Sophonie 3:17 qui nous dit « Dieu a pour nous des transports d'allégresse. Dieu nous aime tellement qu'il chante sur nous. » Et c'est magnifique d'écouter cette composition.
Merci.
I have heard so many songs, listened to a thousand tongues, but there is one that sounds above them all. The Father's song, the Father's love, you sung it over me and for eternity. It's written on my heart. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony. You are singing over me, the Father's song. Heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me. And now you're singing over me, the Father's song. I have heard so many songs, listened to a thousand tongues, but there is one that sounds above them all. Thank you, Lord. The Father's song, the Father's love, you sung it over me, and for eternity it's written on my heart. Heaven's perfect melody, the Creator's symphony. You are singing over me, the Father's song. Heaven's perfect mystery, the King of love has sent for me. And now you're singing over me, the Father's song. Let us hear your song over us tonight, O God. The song of your grace, the song of your love. The Creator's symphony, you are singing over me, the Father's song.
Nous retrouvons notre invité Rodrigue Sacramento, qui est pasteur au centre Languedoc Évangile sur Latte. Et après toutes ces introductions un petit peu théoriques, mais en même temps concrètes, comment mettez-vous en œuvre cette dimension de l'Évangile, de la famille, de Dieu, etc.
Alors, il y a plusieurs manières de vivre cela. On favorise le fait que les familles se retrouvent en faisant une fois par mois le culte dans les maisons. C'est un choix d'intégrer à la vie de l'Église une dimension communautaire où, au lieu de se retrouver sur des chaises où on regarde la nuque de l'autre, on se retrouve dans une maison où on regarde le visage de l'autre. Et ça permet aux familles de se retrouver. Il y a de la place pour les enfants, et on mange ensemble, et ça donne une dimension communautaire à la vie de la paroisse, et c'est fondamental. Ça a été un choix pas facile, mais c'était un alignement à ce que nous croyons profondément. L'autre chose, c'est de créer des occasions pour partager notre foi dans le cadre de nos cultes, mais aussi des événements spécifiques. Noël qui approche, peut-être une occasion de partager cette foi, de vivre donc un culte ouvert à des personnes qui sont en recherche. Et on propose aussi, pour ceux qui sont en recherche, le parcours Alpha dont on parlait tout à l'heure, pour les personnes qui se posent des questions. Donc, ils peuvent venir chez nous parce qu'effectivement, on est aussi lisible. Je vous disais tout à l'heure, répandre abondamment l'Évangile, il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, nous le sommes, ce qui fait que des gens qui peuvent chercher un lieu peuvent taper. Ils vont trouver à Latte une paroisse, ils vont venir. Et des fois, ils en sont là où ils en sont, ils ont des questions et on leur propose le parcours Alpha. L'autre chose de très concret, traduire l'Évangile en acte, on a une épicerie sociale et solidaire dans notre paroisse. Hein, donc, ça veut dire concrètement, dans la semaine, des personnes en situation fragile, qui passent par une passe où financièrement ils sont en difficulté, eh bien, on peut leur proposer tout un parcours d'accompagnement. Or, ça s'adresse aux membres de notre paroisse, mais principalement des gens qui ne sont pas de notre paroisse, qui vont être aidés, accompagnés par cette épicerie. On est dans une logique, on est bougé par notre foi pour incarner l'Évangile, mais c'est une aide qui n'est pas prosélyte, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout un chacun. Et puis, dans le parcours, les personnes peuvent simplement traverser cette période et puis finalement ne plus en avoir besoin. On a eu un témoignage qui m'a beaucoup touché de quelqu'un qui avait à cœur de monter son restaurant. Ben, elle a été aidée pendant un an et puis après, ben, elle a réussi à avoir, mettre de côté et réussi à mettre en place son restaurant. Et donc, on est très heureux de pouvoir aider concrètement le passage difficile des personnes. Mais aussi, c'est l'occasion, lorsqu'elles sont intéressées, ben, voilà, de faire un bout de chemin, même autour de la foi, lorsqu'elles sont intéressées. Donc, ce qui fait que nous, c'est une porte d'entrée, mais qui est ouverte à entrer comme à en sortir sans aucun prosélytisme. Et enfin, c'est vrai que la spécificité de notre paroisse, c'est de proposer la prière pour des besoins multiples et de croire que Dieu est capable de répondre aujourd'hui, s'attendre à ce que Dieu intervienne. Et le nombre de scènes bibliques où des personnes en crise, ben, crient à Dieu, hein, c'est vraiment le terme, c'est un cri. Puis Jésus s'arrête et est capable de visiter les cœurs, de visiter les corps, de visiter les familles et de voir la restauration. On a des témoignages comme ça de quand on invoque le Seigneur, ce qu'il est capable de faire et quand on s'ouvre à lui. Donc la foi nous conduit à dire une parole, à la dire d'une manière concrète, mais aussi à la démontrer et puis à accompagner les gens dans une vraie spiritualité où Jésus est invité pour intervenir.
Merci beaucoup. Est-ce que quand vous parlez des cultes maison, c'est facile pour les familles d'ouvrir leur chez-soi et d'accueillir d'autres personnes? Comment ce travail d'accompagnement se fait?
Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était un défi, parce que bon, nous sommes quatre pasteurs, sauf que on a une douzaine de maisons qui souffrent. Donc forcément, il y a des maisons ou qui sont ouvertes par des personnes qui ne sont pas, disons, officiellement pasteurs. Et c'est un choix de dire que, à l'époque de l'Église primitive, c'était pas les pasteurs seulement qui ouvraient leur maison, c'était les croyants avec une certaine maturité, mais un sens de l'hospitalité qui ouvraient leur maison pour permettre à des croyants proches géographiquement de se retrouver là. Et l'enjeu de ce temps était de vivre la scène. La Bible nous dit qu'ils se retrouvaient dans les maisons et ils rompaient le pain et ils prenaient la scène. Et donc, la proximité permet de vivre un repas, de vivre la scène, mais de permettre à d'autres personnes de prendre une charge pastorale. Et en général, systématiquement, dans ces célébrations dans la maison, il y a une des prédications que nous avons vécues dans le mois passé qui est reprise. Donc, il y a un socle, un canevas. Et puis l'animateur, qui n'est pas forcément toujours celui qui ouvre la maison, ça peut être quelqu'un d'autre, mais qui va donner l'occasion à ce que cette parole soit vécue, que chacun puisse donner la manière dont il incarne dans sa propre vie ou la difficulté qu'il rencontre pour pratiquer cette parole. Et c'est une occasion de prier les uns pour les autres, c'est une occasion de partager des besoins spécifiques. Et donc c'est gagnant pour vivre ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est-à-dire que le culte, très souvent, mobilise assez peu de personnes. On a un prédicateur, on a quelqu'un qui anime la louange. Bien, on peut avoir un temps de prière. Voilà, quelques-uns peuvent participer. Mais là, quand on a une paroisse de près de 300 personnes, ça permet ici de mobiliser des personnes qui ne sont pas actifs dans le cadre d'un culte classique. Et du coup, ça permet de voir des dons, des talents extraordinaire, parce que des gens, d'un coup, on dit, j'ai été dans tel groupe, il y a quelque chose de magnifique, la personne qui a animé, ou des témoignages, quelqu'un qui a introduit la scène, on a réalisé qu'il y avait une grâce quand elle le faisait. Et bien, ainsi, dans le cadre du culte classique, entre guillemets, eh bien, on peut donner l'occasion à des personnes dont on a vu une grâce et un fruit particulier, de participer, d'être acteur dans le cadre de ce culte en commun.
Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que par le culte dans les maisons, vous rejoignez une des premières idées dont vous avez parlé, qui est la famille de l'Église, donner du sens à la famille. Et les temples ou les lieux identifiés de prières, de culte et tout, ne sont pas toujours aménagés ou décorés ou utilisés comme des lieux familiaux. Donc, pouvoir avoir cette possibilité d'un accueil dans la famille, je pense que ça peut aussi casser des craintes des représentations. Des oh là là, c'est lui qui parle, il est le pasteur, donc on va écouter. Alors que dans la famille, on est tous au même niveau. Et j'aime beaucoup votre manière de dire, on se regarde et c'est les visages que l'on voit plutôt que la nuque de l'autre.
Absolument. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il se trouve qu'à peu près un quart des participants dans les célébrations dans la maison ne viennent pas dans les célébrations en commun. Et un quart de ceux qui viennent dans les célébrations classiques ont des fois du mal à se retrouver, à regarder l'autre dans les yeux. Parce qu'ils aiment bien l'incognito, ils viennent là, ils viennent rendre leur culte à Dieu. Mais la dimension communautaire n'a pas autant sa place dans l'expression de leur foi. Et on ne juge personne, mais on veut encourager. C'est pour ça que c'est quand même un risque de dire une fois par mois. C'est un rythme assez soutenu, mais on veut absolument maintenir cela. Et c'est important aussi qu'à cette occasion, les familles puissent se vivre autrement. Dans une célébration dans les maisons, les enfants ont une place dans ce moment-là qui est complètement, c'est différent dans le cadre d'une célébration où ils ont leur salle, ils ont leur lieu. Et des fois, on se retrouve avec une séparation entre les enfants et les adultes. Alors que à l'époque, et même dans la pensée de Jésus qui dit « mais laissez venir à moi les petits-enfants », eh bien, retrouver une dynamique de communauté où les enfants ont leur place, c'est tout à fait dans l'esprit de l'Évangile.
Je voulais vous interviewer un petit peu aussi sur la place de la Bible, parce que nous savons que la Bible est le livre le plus lu, paraît-il, au monde, et le plus traduit en différentes langues. En même temps, vous avez cité plusieurs versets bibliques. Il y a des gens pas chrétiens qui lisent la Bible et qui y trouvent des paroles. Comment, pour vous, la Bible est au centre de votre ministère de pasteur et au centre de ce que vous donnez à vivre et à manger avec la parole dont vous parliez aux membres de l'Église et à ceux qui viennent peut-être de temps en temps?
Alors, l'évangile de Jean commence par un verset qui est extraordinaire. Jean dit « Au commencement était la parole ». Et je crois que toute expression d'Église doit trouver son fondement à la parole. Au commencement, c'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, il y a un enracinement biblique. Et réussir à trouver du sens à ce qu'on fait dans la parole et de dire que cette parole, il est dit dans Hébreux aussi qu'il soutient toute chose par sa parole. C'est-à-dire une église qui n'est pas fondée sur la parole, qui ne la connaît pas, mais qui ne permet pas aussi à ce qu'elle devienne la vie, le souffle, l'énergie, le fondement. Ça permet de structurer. Donc, en fait, quand on l'étudie, on peut donner de la matière aux membres de nos assemblées à se construire sur le roc. C'est Jésus lui-même qui dit, celui qui entend ce que je dis et qui le met en pratique, fonde sa vie sur le roc. Eh bien, la parole pratiquée, parce que on est des croyants pratiquants. C'est-à-dire qu'on croit cette parole, mais on cherche à ce qu'elle soit vécue. Et quand on est en difficulté dans la pratique, bien, la communauté nous aide à donner du sens, à comprendre comment la mettre en pratique. Et celui qui la met en pratique fonde sa vie sur le roc, fonde sa famille sur le roc. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu a vraiment tout ce qui est nécessaire pour la vie au quotidien, autant familial que professionnel, que relationnel, mais tout peut se trouver dans la parole. Encore faut-il la méditer soi-même et aussi la vivre en communauté et puis l'interroger pour qu'elle nous édifie.
Merci beaucoup, Rodrigue Sacramento. Donc, je rappelle que vous êtes pasteur au centre Languedoc Évangile à Lattes. Est-ce qu'il y a une adresse particulière?
Oui, 210 rue du Puech-Radier à Lattes. Alors, on est administrativement à Lattes, mais on est géographiquement à Montpellier. On est vraiment au sud, auprès d'Arennes, au sud de Montpellier, parce qu'on est en deçà de l'autoroute.
Merci beaucoup à vous. Rebon anniversaire. Alors, merci. Soufflez bien vos bougies. Et puis, je remercie Aurélien qui était à la régie. Et je vous dis au mois prochain avec un autre invité. Au revoir. Merci.
Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.